Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux, seconde partie, Système des facultés des animaux. Chapitre 6. Comment l'homme acquiert la connaissance de Dieu. L'idée de Dieu est le grand argument des philosophes qui croient aux idées innées. C'est dans la nature même de cet être qu'ils voient son existence. Car l'essence de toute chose se dévoile à leurs yeux. Comment y aurait-il donc des hommes assez aveugles pour ne connaître les objets que par les rapports qu'ils ont à nous? Comment ces natures, ces essences, ces déterminations premières, ces choses en un mot, auxquelles on donne tant de noms, nous échapperaient-elles si on pouvait les saisir d'une main si assurée? Encore enfant, nous n'apercevons dans les objets que des qualités relatives à nous. S'il nous est possible de découvrir les essences, on conviendra du moins qu'il y faut une longue expérience soutenue de beaucoup de réflexions, et les philosophes reconnaîtront que n'est pas là une connaissance d'enfant. Mais puisqu'ils ont été dans l'enfance, ils ont été ignorants comme nous. Il faut donc les observer, remarquer les secours qu'ils ont eus, voir comment ils se sont élevés d'idée en idée, et saisir comment ils ont passé de la connaissance de ce que les choses sont par rapport à nous, à la connaissance de ce qu'elles sont en elles-mêmes. S'ils ont franchi ce passage, nous pourrons les suivre, et nous deviendrons à cet égard adultes comme eux. S'ils ne l'ont pas franchi, il faut qu'ils redeviennent enfants avec nous. Mais tous leurs efforts sont vains, le traité des sensations l'a démontré, et je crois qu'on sera bientôt convaincu que la connaissance que nous avons de la divinité ne s'étend pas jusqu'à sa nature. Si nous connaissions l'essence de l'être infini, nous connaîtrions sans doute l'essence de tout ce qui existe. Mais s'il ne nous est connu que par les rapports qu'il a avec nous, ces rapports prouvent invinciblement son existence. Plus une vérité est importante, plus on doit avoir soin de ne l'appuyer que sur de solides raisons. L'existence de Dieu en est une, contre laquelle s'émoussent tous les traits des athées. Mais si nous l'établissons sur de faibles principes, n'est-il pas à craindre que l'incrédule ne s'imagine avoir sur la vérité même un avantage qu'il n'aurait que sur nos frivoles raisonnements, et que cette fausse victoire ne le retienne dans l'erreur? N'est-il pas à craindre qu'ils ne nous disent comme aux cartésiens à quoi servent des principes métaphysiques qui portent sur des hypothèses toutes gratuites? Croyez-vous raisonner d'après une notion fort exacte lorsque vous parlez de l'idée d'un être infiniment parfait comme d'une idée qui renferme une infinité de réalités? N'y reconnaissez-vous pas l'ouvrage de votre imagination et ne voyez-vous pas que vous supposez ce que vous avez dessein de prouver? La notion la plus parfaite que nous puissions avoir de la divinité n'est pas infinie. Elle ne renferme, comme toute idée complexe, qu'un certain nombre d'idées partielles. Pour se former cette notion, et pour démontrer en même temps l'existence de Dieu, il est, ce me semble, un moyen bien simple. C'est de chercher par quel progrès et par quelle suite de réflexion l'esprit peut acquérir les idées qui la composent, et sur quel fondement il peut les réunir. Alors les athées ne pourront pas nous opposer que nous raisonnons d'après des idées imaginaires, et nous verrons combien leurs efforts sont vains pour soutenir des hypothèses qui tombent d'elles-mêmes. Commençons. Un concours de causes m'a donné la vie. Par un concours parmi les moments m'en sont précieux ou à charge, par un autre elle me sera enlevée. Je ne saurais douter non plus de ma dépendance que de mon existence. Les causes qui agissent immédiatement sur moi seraient-elles les seules dont je dépends? Je ne suis donc heureux ou malheureux que par elles, et je n'ai rien à attendre d'ailleurs. Telle a pu être, ou à peu près, la première réflexion des hommes quand ils commencèrent à considérer les impressions agréables et désagréables qu'ils reçoivent de la part des objets. Ils virent leur bonheur ou leur malheur au pouvoir de tout ce qui agissait sur eux. Cette connaissance les humilia devant tout ce qui est, et les objets, dont les impressions étaient plus sensibles, furent leur première divinité. Ceux qui s'arrêtèrent, sur cette notion grossière, et qui ne surent pas remonter à une première cause, incapables de donner dans les subtilités métaphysiques des athées, ne songèrent jamais à révoquer en doute la puissance, l'intelligence et la liberté de leur Dieu. Le culte de tous les idolâtres en est la preuve. L'homme n'a commencé à combattre la divinité que quand il était plus fait pour la connaître. Le polythéisme prouve donc combien nous sommes tous convaincus de notre dépendance. Et pour le détruire, il suffit de ne pas s'arrêter à la première notion qui en a été le principe. Je continue donc. Quoi, je dépendrai uniquement des objets qui agissent immédiatement sur moi. Ne vois-je donc pas qu'à leur tour ils obéissent à l'action de tout ce qui les environne? L'air m'est salutaire ou nuisible par les exhalaisons qu'il reçoit de la terre. Mais quelle vapeur celle-ci ferait-elle sortir de son sein si elle n'était pas échauffée par le soleil? Quelle cause a de ce dernier fait un corps tout en feu? Cette cause en reconnaîtra-t-elle encore une autre? Ou pour ne m'arrêter nulle part, admettrais-je une progression d'effets à l'infini sans une première cause? Il y aurait donc proprement une infinité d'effets sans cause, évidente contradiction. Ces réflexions, en donnant l'idée d'un premier principe, en démontrent en même temps l'existence. On ne peut donc pas soupçonner cette idée d'être du nombre de celles qui n'ont de réalité que dans l'imagination. Les philosophes qui l'ont rejetée ont été là dupes du plus vain langage. Le hasard n'est qu'un mot et le besoin qu'ils en ont pour bâtir leur système prouve combien il est nécessaire de reconnaître un premier principe. Quels que soient les effets que je considère, ils me conduisent tous à une première cause qui en dispose, ou qui les arrange soit immédiatement, soit par l'entremise de quelques causes secondes. Mais son action aurait-elle pour terme des êtres qui existeraient par eux-mêmes ou des êtres qu'elles auraient tirés du néant? Cette question paraît peu nécessaire si on accorde le point le plus important que nous en dépendons. En effet, quand j'existerai par moi-même, si je ne me sens que par les perceptions que cette cause me procure, ne fait-elle pas mon bonheur ou mon malheur? Qu'importe que j'existe si je suis incapable de me sentir? Et proprement l'existence de ce que j'appelle « moi » où commence-t-elle si ce n'est au moment où je commence d'en avoir conscience? Mais supposons que le premier principe ne fasse que modifier des êtres qui existent par eux-mêmes, et voyons si cette hypothèse ne peut soutenir. Un être ne peut exister qu'il ne soit modifié d'une certaine manière. Ainsi, dans la supposition que tous les êtres existent par eux-mêmes, ils ont aussi par eux-mêmes telle et telle modification, en sorte que les modifications suivent nécessairement de la même nature dont on veut que leur existence soit l'effet. Or, si le premier principe ne peut rien sur l'existence des êtres, il y aurait contradiction qu'il pût leur enlever les modifications qui sont, conjointement avec leur existence, des effets nécessaires d'une même nature. Que, par exemple, A, B, C, qu'on suppose exister par eux-mêmes, soit en conséquence d'un certain rapport, celui qui n'a point de rapport sur leur existence n'en a point sur ses rapports, il ne peut les changer. Car un être ne peut rien sur un effet qui dépend d'une cause hors de sa puissance. Si un corps par sa nature existe rond, il ne deviendra donc carré que lorsque sa même nature le fera exister carré, et celui qui ne peut lui ôter l'existence ne peut lui ôter la rondeur pour lui donner une autre figure. De même, si par ma nature j'existe avec une sensation agréable, je n'en éprouverai une désagréable qu'autant que ma nature changera ma manière d'exister. En un mot, modifier un être, c'est changer sa manière d'exister. Or, s'il est indépendant quant à son existence, il l'est quant à la manière dont il existe. Concluons que le principe qui arrange toute chose est le même que celui qui donne l'existence. Voilà la création. Elle n'est à notre égard que l'action d'un premier principe par laquelle les êtres de non-existants deviennent existants. Nous ne saurions nous en faire une idée plus parfaite, mais ce n'est pas une raison pour la nier, comme quelques philosophes l'ont prétendu. Un aveugle ne niait la possibilité de la lumière parce qu'il ne la pouvait pas comprendre, et il soutenait que pour nous conduire, nous ne pouvons avoir que des secours à peu près semblables aux siens. « Vous m'assurez, disait-il, que les ténèbres où je suis ne sont qu'une privation de ce que vous appelez lumière. Vous convenez qu'il n'y a personne qui ne puisse se trouver dans les mêmes ténèbres. Supposons donc, ajoutait-il, que tout le monde y fût actuellement. Il ne sera pas possible que la lumière se reproduise jamais, car l'être ne saurait provenir de sa privation ou ne saurait tirer quelque chose du néant. Les athées sont dans le cas de cet aveugle. Ils voient les effets, mais n'ayant point l'idée d'une action créatrice, ils la nient pour substituer des systèmes ridicules. Ils pourraient également soutenir qu'il est impossible que nous ayons des sensations. Car conçoit-on comment un être qui ne se sentait point commence à se sentir. Au reste, il n'est pas étonnant que nous ne concevions pas la création, puisque nous n'apercevons rien en nous qui puisse nous servir de modèle pour nous en faire une idée. Conclure de là qu'elle est impossible, c'est dire que la première cause ne peut pas créer, parce que nous ne le pouvons pas nous-mêmes. C'est encore un coup le cas de l'aveugle qui nie l'existence de la lumière. Dès qu'il est démontré qu'une cause ne peut rien sur un être auquel elle n'a pas, dès qu'il est démontré qu'une cause ne peut rien sur un être auquel elle n'a pas donné l'existence, le système d'Épicure est détruit puisqu'il suppose que des substances qui existent chacune par elles-mêmes agissent cependant les unes sur les autres. Il ne reste pour ressource aux athées que de dire que toute chose émane nécessairement d'un premier principe, comme d'une cause aveugle sans dessein. Voilà en effet où ils ont réuni tous leurs efforts. Il faut donc développer les idées d'intelligence et de liberté, et voir sur quels fondements on les peut joindre aux premières. Tout est présent au premier principe, puisque dans la supposition même des athées, tout est renfermé dans son essence. Si tout lui est présent, il est partout, il est de tous les temps, il est immense, éternel. Il n'imagine donc pas comme nous et toute son intelligence, s'il en a, consiste à concevoir. Mais il y a encore bien de la différence entre sa manière de concevoir et la nôtre. Premièrement, ses idées n'ont pas la même origine. Deuxièmement, il ne les forme pas les unes des autres par une espèce de génération. Troisièmement, il n'a pas besoin de signes pour les arranger dans sa mémoire. Il n'a pas même de mémoire puisque tout lui est présent. Quatrièmement, il ne s'élève pas de connaissance en connaissance par différents progrès. Il voit donc à la fois tous les êtres, tant possibles qu'existants, il en voit dans un même instant la nature, toutes les propriétés, toutes les combinaisons et tous les phénomènes qui doivent en résulter. C'est de la sorte qu'il doit être intelligent. Mais comment s'assurer qu'il l'est? Il n'y a qu'un moyen. Les mêmes effets qui nous ont conduits à cette première cause nous feront connaître ce qu'elle est quand nous réfléchirons sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Considérons les êtres qu'elle a arrangés. Je dis arrangés car il n'est pas nécessaire pour prouver son intelligence de supposer qu'elle est créée. Peut-on voir l'ordre des parties de l'univers, la subordination qui est entre elles, et comment tant de choses différentes forment un tout si durable et rester convaincu que l'univers a pour cause un principe qui n'a aucune connaissance de ce qu'il produit, qui, sans dessein, sans vue, rapporte cependant chaque être à des fins particulières, subordonnées à une fin générale? Si l'objet est trop vaste, qu'on jette les yeux sur le plus vif insecte. Que de finesse, que de beauté, que de magnificence dans les organes, que de précaution dans le choix des armes, tant offensives que défensives. Que de sagesse dans les moyens dont il a été pourvu à sa subsistance. Mais pour observer quelque chose qui nous est plus intime, ne sortons pas de nous-mêmes. Que chacun considère avec quel ordre l'essence concourt à sa conservation, comment il dépend de tout ce qui l'environne, et tient à tout, par des sentiments de plaisir ou de douleur. Qu'il remarque comment ses organes sont faits pour lui transmettre des perceptions. Son âme pour opérer sur ses perceptions, en former tous les jours de nouvelles idées, et acquérir une intelligence qu'elle ose refuser au premier être. Il conclura sans doute que celui qui nous enrichit de tant de sensations différentes connaît le présent qu'il nous fait, qu'il ne donne point à l'âme la faculté d'opérer sur ses sensations sans savoir ce qu'il lui donne, que l'âme ne peut par l'exercice de ses opérations acquérir de l'intelligence qu'il n'ait lui-même une idée de cette intelligence, qu'en un mot, il connaît le système par lequel toutes nos facultés naissent du sentiment et que par conséquent, il nous a formés avec connaissance et avec dessein. Mais son intelligence doit être telle que je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle doit tout embrasser d'un même coup d'œil. Si quelque chose lui échappait, ne fût-ce que pour un instant, le désordre détruirait son ouvrage. Notre liberté renferme trois choses. Premièrement, quelques connaissances de ce que nous devons ou ne devons pas faire. Deuxièmement, la détermination de la volonté, mais une détermination qui soit à nous, et qui ne soit pas l'effet d'une cause plus puissante. Troisièmement, le pouvoir de faire ce que nous voulons. Si notre esprit était assez étendu et assez vif pour embrasser d'une simple vue les choses selon tous les rapports qu'elles ont à nous, nous ne perdrions pas de temps à délibérer. Connaître et se déterminer ne supposerait qu'un seul et même instant. La délibération n'est donc qu'une suite de notre limitation et de notre ignorance, et elle n'est non plus nécessaire à la liberté que l'ignorance même. La liberté de la première cause, si elle a lieu, renferme donc, comme la nôtre, connaissance, détermination de la volonté et pouvoir d'agir, mais elle en diffère en ce qu'elle exclut toute délibération. Plusieurs philosophes ont regardé la dépendance où nous sommes du premier être comme un obstacle à notre liberté. Ce n'est pas le lieu de réfuter cette erreur, Mais puisque le premier être est indépendant, rien n'empêche qu'il ne soit libre, car nous trouvons dans les attributs de puissance et d'indépendance que les athées ne peuvent lui refuser, et dans celui d'intelligence que nous avons prouvé lui convenir tout ce qui constitue la liberté. En effet, on y trouve connaissance, détermination et pouvoir d'agir. Cela est si vrai que ceux qui ont voulu nier la liberté de la première cause ont été obligés, pour raisonner conséquemment, de lui refuser l'intelligence. Cet être, comme intelligent, discerne le bien et le mal, juge du mérite et du démérite, apprécie tout. Comme libre, il se détermine et agit en conséquence de ce qu'il connaît. Ainsi, de son intelligence et de sa liberté naissent sa bonté, sa justice et sa miséricorde, sa providence en un mot. Le premier principe connaît et agit de manière qu'il ne passe pas de pensée en pensée, de dessein en dessein. Tout lui est présent, comme nous l'avons dit, et par conséquent, c'est dans un instant qui n'a point de succession qu'il jouit de toutes ses idées, qu'il forme tous ses ouvrages. Il est permanemment et tout à la fois tout ce qu'il peut être, il est immuable, mais s'il crée par une action qui n'a ni commencement ni fin, comment les choses commencent-elles, comment peuvent-elles finir? C'est que les créatures sont nécessairement limitées, elles ne sauraient être à la fois tout ce qu'elles peuvent être, il faut qu'elles éprouvent des changements successifs, il faut qu'elles durent, et par conséquent il faut qu'elles commencent et qu'elles puissent finir. Mais s'il est nécessaire que tout être limité dure, il ne l'est pas que la succession soit absolument la même dans tous, en sorte que la durée de l'un réponde à la durée de l'autre, instant pour instant. Quoique le monde et moi nous soyons créés dans la même éternité, nous avons chacun notre propre durée. Il dure par la succession de ses modes, je dure par la succession des miens. Et parce que ces deux successions peuvent être l'une sans l'autre, il a duré sans moi, je pourrais durer sans lui, et nous pourrions finir tous deux. Il suffit donc de réfléchir sur la nature de la durée pour apercevoir, autant que notre faible vue peut le permettre, comment le premier principe, sans altérer son immutabilité, est libre de faire naître ou mourir les choses plus tôt ou plus tard. Cela vient uniquement du pouvoir qu'il a de changer la succession des modes de chaque substance. Que, par exemple, l'ordre de l'univers eût été tout autre. Le monde, comme on l'a prouvé ailleurs, compterait des millions d'années ou seulement quelques minutes, et c'est une suite de l'ordre établi que chaque chose naisse et meurt dans le temps. La première cause est donc libre, parce qu'elle produit dans les créatures telle variation et telle succession qui lui plaît, et elle est immuable parce qu'elle fait tout cela dans un instant qui coexiste à toute la durée des créatures. La limitation des créatures nous fait concevoir qu'on peut toujours leur ajouter quelque chose. On pourrait, par exemple, augmenter l'étendue de notre esprit, en sorte qu'il aperçût tout à la fois, cent idées, mille ou davantage, comme il en aperçoit actuellement deux. Mais par la notion que nous venons de nous faire du premier être, nous ne concevons pas qu'on puisse rien lui ajouter. Son intelligence, par exemple, ne saurait s'étendre à de nouvelles idées, elle embrasse tout. Il en est de même de ses autres attributs, chacun d'eux est infini. Il y a un premier principe, mais n'y en a-t-il qu'un? Y en aurait-il deux ou même davantage? Examinons encore ces hypothèses. S'il y a plusieurs premiers principes, ils sont indépendants, car ceux qui seraient subordonnés ne seraient pas premiers, mais de là il s'ensuit. Premièrement, qu'ils ne peuvent agir les uns sur les autres. Deuxièmement, qu'il ne peut y avoir aucune communication entre eux. Troisièmement, que chacun d'eux existe à part sans savoir seulement que d'autres existent. Quatrièmement, que la connaissance et l'action de chacun se bornent à son propre ouvrage. Cinquièmement, enfin, que n'y ayant point de subordination entre eux, il ne saurait y en avoir entre les choses qu'ils produisent. Ce sont là autant de vérités incontestables, car il ne peut y avoir de communication entre deux êtres, autant qu'il y a quelque action de l'un à l'autre. Or, un être ne peut voir et agir qu'en lui-même, parce qu'il ne peut l'un et l'autre que voir là où il est. Sa vue et son action ne peuvent avoir d'autre terme que sa propre substance et l'ouvrage qu'elle renferme. Mais l'indépendance, où seraient plusieurs premiers principes, les mettrait nécessairement les uns hors des autres, car l'un ne pourrait être dans l'autre, ni comme partie, ni comme ouvrage. Il n'y aurait donc entre eux ni connaissance, ni action réciproque. Ils ne pourraient ni concourir, ni se combattre. Enfin, chacun se croirait seul et ne soupçonnerait pas qu'il eût des égaux. Il n'y a donc qu'un premier principe par rapport à nous et à toutes les choses que nous connaissons, puisqu'elles ne forment avec nous qu'un seul et même tout. Concluons même qu'il n'y en a qu'un absolument. Que serait-ce en effet que les deux premiers principes, dont l'un serait ou l'autre ne serait pas, verraient et pourraient ce dont l'autre n'aurait aucune connaissance, et sur quoi il n'aurait aucun pouvoir? Mais il est inutile de s'arrêter à une supposition ridicule que personne ne défend. On n'a jamais admis plusieurs premiers principes que pour les faire concourir à un même ouvrage. Or, j'ai prouvé que ce concours est impossible. Une cause première, indépendante, unique, immense, éternelle, toute puissante, immuable, intelligente, libre et dont la providence s'étend à tout. Voilà la notion la plus parfaite que nous puissions, dans cette vie, nous former de Dieu. À la rigueur, l'athéisme pourrait être caractérisé par le retranchement d'une seule de ces idées. Mais la société, considérant plus particulièrement la chose par rapport à l'effet moral, n'appelle athée que ceux qui nient la puissance, l'intelligence, la liberté, ou en un mot, la providence de la première cause. Si nous nous conformons à ce langage, je ne puis croire qu'il y ait des peuples athées. Je veux qu'il y en ait qui n'aient aucun culte, et qui même n'aient point de nom qui réponde à celui de Dieu. Mais est-il un homme, pour peu qu'il soit capable de réflexion, qui ne remarque sa dépendance et qui ne se sente naturellement porté à craindre et à respecter les êtres dont il croit dépendre? Dans les moments où il est tourmenté par ses besoins, ne s'humiliera-t-il pas devant tout ce qui lui paraît la cause de son bonheur ou de son malheur? Or, ses sentiments n'emportent-ils pas que les êtres qu'il craint et qu'il respecte sont puissants, intelligents et libres? Il a donc déjà sur Dieu les idées les plus nécessaires par rapport à l'effet moral. Que cet homme donne ensuite des noms à ses êtres, qu'il imagine un culte, pourra-t-on dire qu'il ne connaît la divinité que de ce moment et que jusque-là il a été athée? Concluons que la connaissance de Dieu est à la portée de tous les hommes, c'est-à-dire une connaissance proportionnée à l'intérêt de la société.